Bonjour, donc il est 14h et donc vous êtes à l'écoute de l'émission Derrière la vitrine, l'émission des organisations syndicales professionnelles et estudiantines de l'Université Linard. Derrière la vitrine, derrière cette belle vitrine que nous cachetons.
Donc c'est ce que nous essaierons de voir aussi aujourd'hui. Donc, et plus particulièrement, donc, nous avons aujourd'hui dans le studio des camarades de l'organisation Sud. Qui vont se présenter.
Tristan, je suis étudiant.
Elissa, étudiante à Lille.
Aussi, donc, la CGT.
Oui, Dominique, de la CGT Lille.
Et la FSU, donc, avec Moussa, moi-même.
Et Claire.
Voilà, donc...
On a un peu de mal à faire démarrer le générique.
Et donc, le générique n'a pas démarré. Et le générique... c'est quoi le générique? C'est Bella Ciao. Bella Ciao ne démarre pas.
Ça arrive au meilleur.
Je peux la chanter, mais bon, ça risque de faire... Ça risque de faire tâche. Donc, le sommaire, donc, global, Claire, c'est toi qui as le sommaire, me semble-t-il. Tu peux peut-être nous en parler un petit peu, ou donne-moi-le.
Oui, donc on va certainement parler aujourd'hui, évidemment, de la journée en soutien à Goodyear. Donc, il y a beaucoup de camarades, en fait, qui sont partis sur Paris... en soutien, en tout cas pour manifester. On peut aussi parler d'un certain nombre de pétitions, en particulier pour les enseignants-chercheurs, contre le suivi de carrière. La recherche française en danger, ça c'est un appel du CNRS. Et parler peut-être un peu aussi de l'IDEX, hein, des résultats, puisqu'on a eu un peu les tableaux d'évaluation. Les étudiants vont nous parler
de plusieurs choses. Déjà des salles informatiques qui sont fermées maintenant, qui sont plus en libre accès. Hier, on a fait une réunion avec différentes associations pour créer une liste interassociative pour les élections au Centre en mars. Et divers autres problèmes de la vie étudiante qu'on peut rencontrer à l'Université Linard et ailleurs. Quoi.
Alors, est-ce qu'on peut passer le générique ou c'est toujours pas possible?
Eh bien, a priori, il y a un petit souci... On l'entend pas, donc je ne sais pas pourquoi. Normalement, tous les boutons sont...
Donc, c'est pas grave, on va enchaîner tout de suite avec Goodyear. Donc, peut-être, on va te donner la parole.
Tout d'abord, je voudrais saluer deux intervenants qui sont absents aujourd'hui. C'est Jean-Marc et Benoît qui sont actuellement à une réunion du Conseil national de l'Union CGT FIRCSUP. Et qui auraient très bien pu en parler aussi, et qui, je sais qu'ils ont participé au rassemblement qui se déroule en ce moment sur Paris pour protester contre la mesure qui a été prise contre les syndicalistes de chez Goodyear, qui se retrouvent aujourd'hui condamnés à 9 mois de prison ferme, ce qui est plutôt qui n'était pas arrivé depuis longtemps. En général, ça se terminait entrement et de façon un peu plus correcte, mais aujourd'hui... Alors que malgré que entre parenthèses, les principales victimes, c'est-à-dire les cadres qui ont été
condamnés,
séquestrés, ont retiré leur plainte, le gouvernement, par le biais de son ministère, a décidé de poursuivre l'action en justice, et c'est pour ça que ces syndiqués, et en particulier les syndiqués de la CGT, ont été condamnés... au 16 janvier à 9 mois de prison ferme. Donc la CGT, bien sûr, à travers ça, a mobilisé ses troupes, a fait remonter les informations dans toutes ses bases pour dénoncer derrière tout ça la répression syndicale et tout ce qui est... là, c'est une répression forte, mais aussi pour dénoncer la répression syndicale qui est vécue au quotidien sous toutes ses formes, des fois un peu sournoises, à travers tout ce qui est militant et qui peuvent représenter une forme de gêne et de contre-pouvoir à tout ce qui se décide dans les instances dirigeantes.
Donc, pour être bien précis, là, en fait, sur la question de ces ouvriers de Goodyear là, qui ont été condamnés, effectivement, dans les conditions dans lesquelles que tu décris, plus particulièrement, en fait, la condamnation, elle est ignoble, parce qu'il y a c'est une condamnation sans plaignant, en fait. Hein. Le seul plaignant, au final, c'est le parquet, et le parquet, c'est l'État.
Procureur.
Donc, le procureur de la République a jugé bon de continuer la poursuite. Donc, on voit bien que là, il y a un caractère politique à cette condamnation, et c'est pour ça qu'il faut, effectivement, absolument agir en solidarité avec ces ouvriers, ces salariés de Goodyear qui n'ont fait finalement que défendre leur outil de travail. Je voulais préciser qu'effectivement aujourd'hui c'était une journée de mobilisation à leur intention en fait. Hein. Il y a quelques manifestations qui sont programmées, quelques rassemblements un peu partout en France d'ailleurs. Je ne sais pas, à Lille, est-ce que vous avez des informations concernant la mobilisation qui a lieu à Lille ?
Alors celui-là, j'ai vu passer un document qui appelait une manifestation devant la mairie de Tourcoing, organisée par l'UL de Tourcoing. Les UL qui n'ont pas fait partir de bus ont organisé des rassemblements. C'est toutes ces actions que... Il y a eu aussi précédemment, avant la décision de justice, il y avait déjà eu au mois de septembre aussi une grosse journée sur la répression syndicale, parce que c'est des choses qui couvent, en particulier, je dirais, dans le secteur privé, le secteur marchand. Et donc, la mobilisation, elle est là, et je dirais, la vigilance aussi, elle est là. On s'arrange pour faire remonter... au sein de la CGT, à quelle sauce on essaye de manger tout ce qui est militants syndicaux, et en particulier les militants CGT. On a des exemples ici sur la métropole, dans des associations où on a tout fait pour bloquer des conventions de mise en détachement de représentants du personnel CGT. Et depuis des années, là dernièrement, c'est sur cette personne-là, on a réussi à débloquer la situation, mais ce qui se passe, ça peut être considéré comme un acharnement.
Oui, c'est un acharnement, mais bon, je pense qu'il a quand même une visée, il a des visées politiques. Il a des visées politiques, ce n'est pas fait pour rien. Je pense, on en a déjà discuté, mais globalement, cet acharnement contre les syndicalistes de Goodyear, c'est aussi une manière d'essayer de faire pression sur le mouvement social, de manière générale, pour se taire devant toutes ces réformes, devant tous ces actes finalement qui constituent finalement la première violence sociale, parce qu'on parle toujours de violence, mais bon, il faut d'abord considérer la première violence, et la première violence elle est sociale, c'est celle qui mène des pères et des mères de famille à se retrouver sans emploi, à se retrouver dans la misère, dans la précarité, etc. C'est là la première violence sociale, et c'est celle-là qu'il faudrait condamner. Malheureusement, nous avons un gouvernement de gauche, soi-disant de gauche, ceux qui sont condamnés ne sont pas ceux qui justement initient cette violence, mais ceux qui la subissent.
Oui, parce que ces salariés de Goodyear, comme partout ailleurs, n'ont fait que défendre, comme tu le précises, l'outil de travail. Et avant d'en arriver là, à ces formes que pourraient citer certains en disant oui, c'est de la violence, mais il y a eu tout un processus en amont qui s'est mis en place et qui a dit les salariés ont essayé de faire des propositions. Il y a eu tout un tas de démarches, et là, je dirais, ça c'est un peu le mauvais final et qui a la conséquence d'un blocage complet de la direction avec des vues purement lucratives sur la société Goodyear qui... Et derrière ça, on sait bien qu'il y a une entreprise, il y a le patron de Titan qui comprend pas l'histoire de la France et de ses combats, et d'avoir amené tout ce système en place par l'action syndicale. Et ces gens-là ne veulent pas comprendre ça et sont prêts à laisser pourrir des situations qui amènent ce genre de blocage. Et après, bien sûr, on met ça comme ça en avant devant l'opinion publique, et de la façon que c'est présenté, on pourrait croire que c'est de la violence. On appelle ça de la violence gratuite, mais non, c'est malheureusement, ça a été provoqué par l'attitude des dirigeants et des patrons à quels ont eu affaire les représentants du personnel CGT, avec tout ça, avec l'appui des salariés d'entreprise. Hein, c'est pas qu'une affaire de personne, c'est derrière tout ça, il y avait plusieurs centaines de salariés qui les ont soutenus, et aujourd'hui, on essaye de les faire passer pour une bande de voyous, quoi, de criminels. Et c'est si on regarde de tout près les conséquences, les effets, les causes et les effets de tout ça, ben, on se rend bien compte que les vrais criminels au départ, c'est pas les travailleurs.
Oui, tout à fait. Donc, je regarde clair, mais je crois que ça y est, nous avons la situation en main.
Il y a un petit problème technique avec les logiciels qui n'étaient pas à jour, je ne sais pas, il y avait un petit souci.
Nous avons la situation en main, donc chers auditeurs, vous n'échapperez pas au générique
mais
de l'émission.
Je vais le mettre à la fin, plutôt.
Ah, tu veux le mettre à la fin? Ah, si j'aurais bien voulu l'entendre maintenant, mais bon, c'est pas grave. Non. Bon, alors on poursuit. Donc, toujours dans cette lignée, finalement, on s'aperçoit que, globalement, les actions qui sont faites, ou les lois qui sont mises en place par le gouvernement actuel, tendent évidemment à vouloir étouffer toute contestation, à vouloir étouffer toute révolte de ceux qui subissent effectivement cette violence sociale. Et on pourrait, extrapoler ça finalement à la réforme du code du travail qui est actuellement en cours. Monsieur Badinter nous a expliqué que c'était trop compliqué. Alors, le code du travail est trop compliqué. Bon, je pense qu'il est trop compliqué parce qu'il est trop précis, justement. Il est très précis. Si on le simplifie, il sera beaucoup moins précis et donc beaucoup plus facile à contourner. Je lisais un bon mot, là, tout à l'heure. Je lisais un bon mot. Alors, on aime ou on n'aime pas, bien sûr, sur le blog de Jean-Luc Mélenchon, donc on aime ou on n'aime pas, qui disait finalement vouloir supprimer le code du travail parce qu'il y a trop de chômeurs et qu'on veut flexibiliser, c'est comme vouloir supprimer le code de la route parce qu'il y a trop d'accidents. Donc c'était quand même un bon mot, et je voulais le dire. Voilà.
Surtout qu'il a été amendé, le code du travail, par les patrons eux-mêmes, hein. C'est eux qui ont ajouté...
C'est eux qui l'ont complexifié, en fait, avec tous les amendements qui ont été mis en place, etc. La complexité vient du fait aussi qu'on a voulu l'amender... à maintes reprises.
Oui, parce que le code du travail, bon, malgré qu'il comporte quelques imperfections, peut-être pas dans le sens que l'entendre
Gattaz,
le MEDEF et compagnie, quoi, mais le code du travail doit aussi normalement protéger le travailleur contre lui-même au départ, parce qu'il n'est pas au courant vraiment de tout ce qui peut le dans son quotidien en termes de contrat, de protection, ce qui gère tout ça. Et tout ça est à l'intérieur du code du travail et, je dirais, est inscrit dans le marbre, est un outil.
De défense, en
voilà,
fait,
des droits. Qui est la base, le socle de la protection du travailleur. Et si on commence à démonter ça ou à l'alléger, ça, c'est la porte ouverte à tout ce que chasse le MEDEF, tout ce que veut mettre en place le MEDEF et compagnie. Alors que déjà, ils ont déjà comme ça assoupli des règles, ils ont mis des choses en place en termes de rupture du contrat de travail avec la rupture conventionnelle, en termes de groupement d'employeurs. Ils essayent de faire des incursions pour réduire le travail à une forme d'intérimaire plus que précarisé.
Tout à fait. Donc l'idée, c'est finalement de flexibiliser au maximum le travailleur. Et puis,
les gens deviennent corvéables à merci. Hein.
Exactement. Donc en fait, on s'aperçoit, bon, c'est un peu à l'image de ce qui se passe aux États-Unis. Hein. On vous prévient juste la veille que bah, finalement, vous ne faites plus partie de l'entreprise
et
que vous partez.
Hein.
Enfin, dans un certain nombre de pays qui pratiquent ce qu'on appelle la flexibilité. La flexibilité, c'est sous-entendu la flexibilité de celui qui travaille, hein. Pas celle de celui qui emploie. Celui-là, il n'est pas flexible, par contre. Hein. Lui, il restera toujours inflexible. Donc, on peut être une petite pause musicale, Claire. Hein. Tu nous as concocté une petite chanson.
Oui, c'est parti.
Derrière le rideau, une voix de crécelle dit qu'il va faire beau. Mais je m'en fous pas mal des choses de la rue. Il y a dans tes caresses des croissants tout chauds. Du thé à l'amour et des fruits confus. Sers-moi encore un petit verre d'eau. Raconte-moi des rêves au goût de cachou sur un bout de grève le long de ton cou. Des soleils sur ta peau saline. Dessine-moi une abeille que je te butine. Midi qui klaxonne sur le macadam. Les bistrots bourdonnent, l'ascenseur qui brame. Mais je m'en fous pas mal des choses de la rue. Donne-moi plutôt un savon qui mousse. Je ferai l'animal pris au dépourvu si tu me fais des choses si douces. Raconte-moi des rêves, des histoires de flou. Lèvres, raconte. téléphone à tes états d'âme. Mais je m'en fous pas mal des choses de ta vie, de tes rendez-vous que tu n'as pas pris, de tes mercredis qui sont bien remplis et de ton mobile qui n'a plus de batterie. Raconte-moi des rêves, des histoires de flou. Si le jour se lève, dis-lui qu'on s'en fout. Le soleil se désoleille sur ta peau saline. Dessine-moi une abeille que je te butine.
Donc vous êtes sur Radio Campus 106.6, l'émission donc derrière la vitrine, émission des organisations syndicales, professionnelles et studentines. Nous allons peut-être vous reparler un petit peu de l'IDEX aujourd'hui, parce que nous avons quelques éléments d'information concernant l'évaluation du projet Lillois.
Oui, mais d'abord, peut-être un petit topo sur Goodyear qu'on avait...
D'accord, pardon.
Mais, pas de souci.
Tu voulais dire...
préciser quelque chose, parce que je vous ai entendu, quand vous parliez tout à l'heure de Goodyear.
Oui.
Juste préciser aussi qu'il y avait une pétition qui est en ligne, qui a recueilli au moins 150 000 signatures contre les sanctions envers les syndicalistes de Goodyear, et aussi préciser aussi que notre syndicat soutenait totalement les camarades de Goodyear de la CGT, et que moi personnellement je viens de la région Picardie, et je les comprends totalement vu la merde que c'est au niveau des emplois, vu les usines qui ferment, vu le manque d'emplois qu'il y a dans toute sa région. Je comprends leur acte pour défendre leur emploi, et c'est scandaleux que le gouvernement, la justice française les attaque là-dessus. Voilà.
Oui, une dernière chose pour en terminer Goodyear, mais pour continuer la bataille, en tapant sur un simple moteur de recherche, l'appel des Goodyear, vous allez accéder sur la pétition en ligne, et n'hésitez pas à la remplir. Quoi.
C'est, tout à fait.
C'est des choses qui pèsent, qui peuvent peser et mobiliser l'opinion.
Oui, pour ceux qui n'auraient pas signé cette pétition, effectivement, nos auditeurs, je vous invite à signer et à faire signer cette pétition. C'est très simple, il suffit d'aller effectivement sur un moteur de recherche. Il y a une pétition qui est sur le site de change.org, par exemple.
L'appel des Goodyear, simplement.
Ça s'appelle l'appel des Goodyear.
Vous êtes tout de suite dirigé.
Et vous êtes tout de suite dirigé sur cette pétition. Sans transition, nous passons à l'IDEX. Qui est une autre sanction également, mais qui touche l'université. Voilà.
Oui, puisqu'on a eu les résultats, là, un petit peu les données un peu plus précises. On sait qu'on n'a pas eu l'IDEX, mais donc les raisons sont abondamment commentées. Donc, Moussa.
Ah, alors voilà, j'ai le plaisir de vous donner les résultats. Donc,
chacun son tour d'être noté, oui.
C'est une dépêche de l'AEF, en fait, qui est la dépêche. L'AEF, c'est l'agence de presse liée à l'enseignement supérieur, en fait. Je ne sais pas trop d'ailleurs si on a le droit de s'y référer, mais bon, on s'en fout, c'est pas grave, je les donne quand même. Et ça date du 29/01/2016, et le titre de cette dépêche est « Le projet de Lille nécessite des changements majeurs pour atteindre le niveau attendu d'un IDEX ». Ça fait mal. Donc, en termes de bilan, c'est 1A, 9B et 2C. Donc, sachant que le A, c'est bon, et C, c'est mauvais. Enfin, à peu près. Hein. C'est un peu l'échelle de notation.
Ça va en langage technocratique, ça.
1A, 9B, 2C. Je lis avec étonnement que, d'après ce qu'on reproche globalement à ce projet nordiste, le projet doit attirer d'autres partenaires. D'autres partenaires, et en particulier, par exemple, les écoles d'ingénieurs. Si on regarde un petit peu le paysage de la métropole lilloise, où sont les écoles d'ingénieurs? Bon, on a quelques-unes qui sont publiques, et effectivement. D'abord, il y a une école interne, il y a le Polytech Lille qui est une école interne. Après, nous avons quelques écoles publiques, mais la majorité des écoles d'ingénieurs sont privées. Alors, on veut peut-être nous réintégrer la Cato encore une fois dans l'IDEX. À mon avis, c'est peut-être ça le prochain projet. Si la Cato est là-dedans, à mon avis, on aura l'IDEX, vu qu'ils ont évidemment les, comment dire.
On aura la bénédiction.
On on a la bénédiction papale et donc du coup ça pourra aller. Donc ça c'était pour rigoler, hein, donc je disais ça. Alors finalement si on veut être sérieux, donc dans les points négatifs qui sont de la candidature lilloise. Alors, malgré les progrès de la fusion des trois universités, donc on souligne que la transformation est trop, vraiment trop lente. C'est trop lent. Ça, c'est le jury qui le dit.
Encore deux ans, oui.
Et ensuite, deuxième point négatif, l'excellence scientifique n'est pas également répartie. Bah ça, on le dit depuis très longtemps. Hein.
Ouais,
c'est...
Ça,
c'est Mais c'est parce que les moyens sont inégalement répartis également. Hein. Bon, je pense que ça, peut-être que le jury oublie de le préciser. L'excellence émergente n'est pas correctement intégrée dans les visions à long terme.
L'excellence émergente.
L'excellence émergente, c'est-à-dire qu'on a priori l'excellence qui peut émerger.
Ah, ok.
Voilà.
En devenir.
L'excellence en devenir, exactement. La proposition manque d'ambition. Les termes sont durs quand même. Et de volonté d'innovation, et en particulier dans sa composante formation. Après, il y a un aspect sur les doctorants. On nous dit que le renforcement du programme pour les doctorants est en deçà de ce qui est attendu d'une grande université qui pourrait avoir l'IDEX. En particulier, le nombre de doctorants visés demeure insuffisant pour une université de cette taille et de cette envergure.
Sauf que ça va avec le recrutement des enseignants-chercheurs et des chercheurs.
Ça va avec l'enseignement, le recrutement, ça va avec les financements. Ben voilà, tout va avec. Ouais. Hein. Je veux dire, s'ils nous donnent l'IDEX, on recrute 150 000 doctorants d'un seul coup. Non, mais enfin, je plaisante. Il manque dans le benchmarking, alors là, il faut quand même traduire la phrase. Il manque dans le benchmarking une analyse comparative critique avec les 5 universités sélectionnées. J'imagine sous-entendu les 5 universités sélectionnées pour l'IDEX. Et donc du coup il manque un benchmarking, c'est-à-dire qu'il faut faire une étude comparative, c'est-à-dire en fait il faut se valoriser par rapport à son concurrent. C'est quand même
ce qui ne va pas chez les autres.
Voilà ce qui ne va pas chez les autres et pourquoi on est plus fort. Voilà, c'est vraiment le truc.
C'est tout à fait service public.
Ouais, tout à fait,
ça rentre vraiment dans l'émission du service public que de dénigrer ses voisins, quoi. Ceux qui font la même chose dans d'autres régions globalement.
Et la qualité des
quoi.
Formations et le bien-être des étudiants, ils en parlent
Non, ils s'en foutent. Non, c'est pas leur problème.
Oh dommage.
Non, parce que les points forts, je vous donne maintenant les points forts parce que je vous ai donné.
Ah oui,
faibles.
Quand même.
Il y a quand même quelques points forts. Objectif. Les points forts, c'est un large spectre d'activités de haut niveau. Alors du coup, ça rentre un petit peu en contradiction avec quelques... Bon, enfin, je sais pas, il faudra qu'ils m'expliquent. Hein, je comprends pas toujours leur jargon. Avec une valeur ajoutée dans certains domaines de recherche. Ah ouais, voilà, ça, ce qui est bon, ça. Une politique RH excellente. En particulier en ce qui concerne l'intégration des chercheurs étrangers.
C'est tourné vers l'extérieur, très souvent.
Ouais. Une position de leader dans la formation tout au long de la vie et un support affirmé des pouvoirs publics au niveau régional. C'est-à-dire qu'on est bien soutenu par les régions. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'on ne l'a pas eu. Hein. C'est parce qu'on est peut-être soutenu par les régions. On n'aurait pas dû avoir Martine Aubry comme soutien parce qu'elle est tellement mal vue au PS que c'est pas bon pour nous. Voilà. Et c'est évidemment la réponse de nos présidents, c'est qu'ils sont déçus et humiliés. Je vais pas rentrer dans le détail de de ce qu'ils nous disent.
Mais comme on a dit la dernière fois, ils ont accepté de jouer, ils acceptent de perdre.
Hein. Xavier Van Dendrich nous dit qu'il n'est pas un mauvais perdant dans cette dépêche. Bon, voilà. Par contre, je vous livre la position SNESUP-FSU qui était dans la dépêche. Hein, et je vous la lis en tant que telle. L'excellence nordiste ne ramène pas un rond. Alors ça, ils disent, ironise le SNESUP-FSU académique dans un communiqué daté du 29 janvier. Le syndicat rappelle son opposition au principe des PIA. Les PIA, donc, c'est ce qu'on appelle, c'est les programmes investissement à venir, là, en fait. Hein, c'est les plans investissement à venir, c'est-à-dire les IDEX trans dans ce cadre-là. Les PIA, pour nous, pour le SNESUP-FSU, sont des machines à promouvoir les inégalités. Et le concours à l'excellence détourne l'attention des citoyens des carences de l'État en matière d'investissement dans ces universités. Voilà qui est bien dit.
Oui, hein, je pense qu'on a bien résumé un peu la position du SNESU par rapport à cet IDEX. Hein, de toute façon, ça crée des inégalités, ça crée des déserts, on l'a déjà dit aussi la semaine dernière, des déserts universitaires hein, pour ceux qui n'auront pas l'IDEX. Voilà, c'est forcément faire fuir peut-être les étudiants.
Et du coup, des petites universités de la région, Valenciennes, ULCO ou Artois, elles vont pas en bénéficier. Elles n'en bénéficieraient pas si jamais c'était arrivé. Ça concentrait les moyens de
sur la métropole,
lilloise, continuer à accroître les inégalités au sein même de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, parce que maintenant on a fusionné. Donc c'est quand même pas très très égal au niveau égalitaire au niveau du service public.
Ah, peut-être quelques éléments d'information toujours par rapport à cet IDEX, c'est que effectivement dans la suite de cette affaire là, en fait, la région veut quand même financer la poursuite, l'accompagnement d'une nouvelle candidature. ça va être difficile de remonter la pente hein, quand même. Mais bon, le conseiller régional Nord-Pas-de-Calais appelle les porteurs de projet IDEX à relancer leur candidature. Alors, on nous dit.
Ils vont verser 50 000 euros au panier. Hein.
Ouais, Nicolas Lebas, vice-président UDI en charge de l'enseignement supérieur de la recherche, parle plutôt d'un ajournement plutôt que d'un refus. Enfin, veut croire que c'est plutôt un ajournement qu'un refus.
Quoi.
Voilà. Et la région se dit prête à financer avec la métropole européenne de Lille une mission d'appui stratégique et d'accompagnement de la candidature. Constitué d'experts internationaux indépendants, bien sûr. Donc, mais bon, voilà, et bon, ces experts, il faut les payer. Donc, la région est prête à mettre la main à la poche, 50 000 euros budgétés. Elle propose aussi de s'associer à un comité de parrainage avec encore plus d'entreprises. Voilà.
Super.
Et donc, la motion a été adoptée en ce sens jeudi 28 février par la majorité LR-UDI. LR, c'est les Républicains, UDI, c'est les centristes, par 108 voix. L'opposition FN s'est abstenue avec 54 voix et demande une remise en cause de l'équipe qui a redirigé le dossier IDEX. Trois échecs et c'est la faute aux autres. C'est un peu court comme analyse, estiment ces élus.
Bon, on ne va pas trop citer le National.
Non, mais bon, ce sont les élus, donc voilà ce qu'ils disent. Hein, donc c'est des trucs qui sont écrits dans la dépêche. Hein,
c'est
donc, voilà.
C'est, vrai, ouais.
C'est pas moi qui leur fais de la pub. Hein.
Ooh, yeah. Guess you better familiarize yourself with me. The weather all's fine. You know there's never no waiting for the right kind of breeze. The pleasure all's mine. Always remember, communicate across memories. 'Cause yesterday's gone. Time to go, don't say no more, because the tide's gone. Ooh, familiarize. Ooh, yeah, yeah. Familiarize yourself. Above me in a wild storm. I'd like to know how many songs must an angel sing before an eye's red. It's time to settle. Don't you know I'll wait for you on a saucy bed.
Campus 106.6, c'est l'émission derrière la vitrine, de nos universités, donc de l'Université de Lille. Émission donc proposée par les organisations syndicales professionnelles et estudiantines de cette université. Et nous continuons tout de suite. On va donner la parole aux étudiants parce que finalement on les brime un peu. On leur laisse pas la parole alors qu'on va leur laisser, un petit peu la parole. Il y a pas mal de soucis a priori. Hein.
Ah oui, 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 en ces temps-ci, c'est la merde. À Lille 1, notamment, les salles d'info sont plus ouvertes, enfin, sont plus libre accès parce que il y a eu un jet de postes de moniteurs informatiques. Du coup, notre syndicat a publié un communiqué là-dessus et l'a partagé amplement sur les groupes de promotion sur Facebook. On n'a pas eu encore beaucoup de retours, mais c'est quand même un peu scandaleux que la politique budgétaire de l'université joue sur sur la fermeture de fait de ces salles d'informatique. Je précise quand même qu'il y a énormément d'étudiants qui n'ont pas d'ordinateur portable, qui n'ont pas de smartphone ou ce genre de choses, que du coup c'est un enseignement supérieur ouvert à tous, c'est moyen de fermer des salles informatiques en libre accès, quoi.
Et ces salles informatiques, c'est lesquelles alors? Donc précise-nous un petit peu, parce qu'en fait à l'université c'est un peu compliqué, il y a tellement de salles informatiques un peu partout que...
C'était une info de Benoît de la CGT qui nous en avait parlé. J'ai pas les bâtiments en tête.
Mais c'est des salles informatiques dédiées.
Pour le travail des étudiants. D'accord. C'est pas des salles informatiques
spécialisées.
C'est pas des salles informatiques où de TD de.
On fait de calcul ou ce genre de choses. Voilà,
c'était des salles informatiques en libre accès. Donc voilà.
Pour taper des rapports.
Pour aller taper des rapports sur
Internet, etc.
Je vous invite à lire notre communiqué sur notre site qui s'appelle Dessus d'étudiants en ligne sur Internet. Et comme ça, vous pourrez voir un peu plus d'impact,
plus de précision.
Mais c'est pas. Oui, après, ils vont pas fermer des salles de TP en informatique. Enfin,
effectivement, ça gérait plus local. C'est un peu géré.
Ouais, voilà, c'est géré par les UFR. Ouais. Ça, c'est bon. Mais en tout cas, on est. Ça témoigne d'une politique budgétaire, qui est de moins en moins favorable aux étudiants, parce qu'il y a de plus en plus de problèmes de budget. Notamment, il y avait à la MDE il y a pas longtemps, on nous avait dit qu'il y avait pas beaucoup d'argent pour notamment changer du matériel classique, des chaises ou ce genre de choses. Enfin, voilà. Donc du coup, on dénonce cet état de fait, tout en continuant, essayant de faire. Faire avec ce qu'on a, quoi, les étudiants. Voilà, peut-être que tu voulais intervenir, toi, Elissard, sur la précarité étudiante, notamment en termes de transport.
Il y a un collectif transport gratuit qui s'est monté depuis maintenant un mois. Donc, les transports gratuits, c'est une revendication qui est revendiquée sur l'île depuis 5-6 ans maintenant, qui s'est créée autour de différents groupes qui ont. De différents groupes politiques et ou associatifs, comme la Mutuelle des Fraudeurs, par exemple, ou bien les Jeunesses Communistes de leur côté. Et depuis quelques mois, ils sont formés à un collectif qui s'appelle le collectif des transports gratuits, qui rassemble un certain nombre d'usagers, d'associations diverses et syndicats, comme la CGT et Sud Retraite, les Espaces Marx, l'ATAC, Ensemble, l'AJC, l'UEC, les Jeunesses Communistes et les Étudiants Communistes, Sud Étudiants, le collectif des usagers, un collectif des usagers qui s'est monté il n'y a pas très longtemps, la Mutuelle des Fraudeurs, évidemment, et plein d'autres. Donc la revendication, elle vient autour... La mobilisation s'est montée autour surtout de la hausse tarifaire récente, là, de début janvier, qui précarise énormément, notamment les étudiants boursiers qui se voient supprimer leur tarif.
Alors, les étudiants boursiers échelon 1 et échelon 0. Voilà. Pas tous les étudiants, mais du coup, on est quand même sur une grande majorité des boursiers. La majorité des boursiers sont échelon 1 et 0, quoi.
D'accord. Et donc, est-ce qu'il y a des actions qui sont programmées par ce collectif prochainement ou pas encore? Ils sont en train plutôt de réfléchir à des modalités d'action concernant comment peut-on avoir les transports gratuits dans cette métropole?
Alors, c'est une grande question, mais en tout cas, il y a des mobilisations qui sont prévues. Le collectif, d'abord, cherche à se faire connaître auprès des usagers, faire connaître la revendication. Il y a des réunions une fois toutes les deux semaines, elles sont ouvertes à tout le monde.
Et mercredi prochain, à la MDE, il y a une réunion qui est à 18h qui est prévue par le collectif des usagers de transport, notamment.
Alors, il faut préciser que Transpol, en fait, c'est quand même...
Une filiale de Keolis, c'est ça?
Ouais, c'est ça, c'est une filiale. Et puis après, bon, il y a des fonds de pension canadiens qui sont là-dedans, qui ont investi là-dedans. Donc globalement, ça c'est une machine à produire de l'argent, oui. Globalement. Ouais. Mais au final, lorsqu'on regarde globalement, c'est que ce que les subventions versées par les instances régionales, on va dire les collectivités de manière générale, suffirait au final à rendre le transport gratuit. Je crois qu'il y a une étude qui avait été faite par le Parti communiste à une certaine époque qui avait montré que la gratuité était tout à fait possible. Évidemment,
il y a des villes où c'est déjà le cas,
Dunkerque. Dunkerque, ça va être prévu pour l'année prochaine. Aubagne, ça va être supprimé parce que ça a changé de couleur politique.
Évidemment, le problème, c'est qu'il faut virer les fonds de pension. Quoi. Donc là, c'est là où ça pose problème.
Ce qui coûte surtout cher, c'est deux choses. Enfin, c'est le contrôle de la fraude et la carte passe-passe qui a été un gouffre financier. Il faut pas se nier.
Les bénéfices, les fonds de pension également.
Oui, mais tout à fait. Les actionnaires de Keolis. Mais il y avait un discours qui avait été prononcé par. Je me souviens, avant, c'était Éric Cliquet, le vice-président à la métropole européenne, enfin à la MCU à l'époque, sur des transports, qui nous disait qu'il fallait sécuriser l'investissement, enfin quelque chose comme ça, qui nous disait qu'il fallait éviter que Keolis se taille, enfin change, vire son contrat avec la métropole, en sécurisant la chose, c'est-à-dire en créant la carte passe-passe, en augmentant la répression des fraudeurs et des fraudeuses. En faisant attention qu'il n'y ait pas de manque à gagner, ce qu'ils appellent.
Augmenter la marge, oui.
Voilà, c'est ça, augmenter les bénéfices.
La marge, ça c'est.
Ouais, c'est une grosse problématique parce qu'en fait, toutes les organisations politiques ne sont pas pour les. De gauche, dirons-nous, ne sont pas pour la gratuité. En particulier les Verts ne sont pas pour la gratuité.
Pour la hausse des transports, quand il en était question, il n'y a que deux groupes politiques qui sont vraiment opposés. Donc il y a le Parti communiste qui a voté contre la hausse tarifaire, le FN qui s'est abstenu, tout le reste a voté pour.
Voilà.
C'est malheureux. Et
du coup, on est sur deux lignes qui vont, de Tourcoing à l'Homme et de Villeneuve-d'Ascq à Loos, enfin, qui coûte un ticket unitaire, ça coûte 1,60€ plus la caution de 20 centimes, on est sur le même prix qu'à Paris, quoi. Alors que la ligne est plus petite, enfin, c'est juste aberrant, quoi. Pareil, la répression de la fraude est prévue pour est prévue comme unique réponse au problème de la fraude, justement. Il n'y a pas une question pourquoi des gens y fraudent, pourquoi ils fraudent, pourquoi c'est aussi cher. Non, en fait, ce qui est prévu, c'est aussi de faire des portiques de sécurité comme à Paris, notamment par le génial vice-président des transports à la Maine, qui est Gérald Darmanin, le maire de Tourcoing, pour fliquer des fraudeurs dans le métro, quoi.
Ça leur coûte pas cher, puisque au final, c'est toujours, je dirais, l'utilisateur qui va payer toute cette montée
en charge.
En vouloir mettre des portiques, en instaurant des systèmes de cartes.
Donc ça veut dire qu'il faut partir 3 heures avant pour aller au bout, globalement. Donc si tu dois passer par des portiques...
Ou prendre le vélo.
Il y a une incohérence totale entre ce que disent certains politiques en termes de...
la transition énergétique.
Ils
nous parlent de transition énergétique. Ça veut dire transport public. Transport public, pour mettre le plus de monde dans les transports publics, c'est de les rendre plus accessibles. Gratuité est un aboutissement. Et donc là, on ne comprend pas.
On ne comprend pas du tout.
Et donc, on vous invite à agir dans le cadre du collectif...
Gratuité et transport.
Tu peux peut-être nous rappeler le nom du collectif, s'il te plaît.
Collectif autour des transports gratuits.
D'accord. Donc, il y a un collectif qui agit autour de ça. Si vous êtes intéressé par la question, vous pouvez agir au sein de ce collectif.
Prochaine réunion mercredi, le lieu reste encore à déterminer, donc mercredi dans
potentiellement la MDE aussi la semaine prochaine. Mercredi à la MDE, il y a potentiellement.
Il y a deux mercredis de suite.
Ouais,
en fait.
Pardon,
deux mercredis de suite.
Ouais, oui.
Très bien, on fait une petite pause, Claire.
Alors après Kezia Jones, voici Jimmy Colomb.
just one local call and you'll see a happy path through life, not for free. A little bit fat, you can't get a girl, you're short on cash. I'll change your world, the only way now is straight up. Your deepest despair, I'll make it stop. Just 1995 on major credit cards, and you'll stay alive, and you'll go far in just 7 short days. You'll change your life. All of your innocence found, you'll even lose a few pounds. See yourself making a mint, quality time with your kids. Send me your money, I'll change your life. I know sometimes your life is a bitch, so come purchase my easy fix. I've been there myself, sad, fat and bald. Soon with my help you'll have it all. I'll build you back up for the fight. You'll be so wound up your stomach's tight. You're the life of the party, get yourself laid. Surely you'll trust me once I've been paid. In just 7 short days, you'll change your life. All of your innocence found, you'll even lose a few pounds. See yourself making a mint, quality time with your kids. Send me your money, I'll change your life. Yeah, yeah. So many years ago, I was so low and lonely and depressed. I hadn't left my flat in weeks and never even bothered getting dressed. And I was smoking weed and I was in a mess. And that's when it happened. So I opened up the blinds to let the light in on my sorry life. I dreamed about success and money, muscles, women, cars, and even wives. And they would always tend to my every need. So do you see what you can be? Baby, when you're with me, in just 7 short days. Found, you'll even lose a few pounds. See yourself making amends, quality time with your kids. send me your money and I'll change your life.
Vous êtes donc sur Radio Campus toujours hein, sur 106.6 l'émission derrière la vitrine des organisations syndicales professionnelles et estudiantines. Je voulais préciser d'abord que Radio Campus est une radio libre. Et il n'y a que des bénévoles à l'intérieur, que ce soit au niveau technique qu'au niveau contenu des émissions. Et donc vous nous excuserez pour quelques petites imperfections techniques. Rassurez-vous, donc Claire qui est aux manettes débute. On ne va pas les licencier aujourd'hui. On attend la semaine prochaine pour voir comment elle se débrouille. Elle est en période d'essai, donc on la surveille de près. Voilà. Donc nous allons nous intéresser peut-être maintenant, bien sûr, à Lilin. Comme chacun le sait, enfin pour en tout cas ceux qui sont à Lilin le savent, ceux qui sont nos auditeurs qui sont à l'extérieur ne le savent pas. Il y a des élections bientôt, prochainement en fait, qui vont renouveler en fait la direction de cette université et donc et des conseils centraux qui la constituent en fait. Et donc évidemment, nos organisations syndicales sont bien évidemment engagées dans ces élections, et en particulier donc Sud Étudiants est engagé également dans la construction de listes.
Ouais. En fait, justement, nous on voulait faire une liste unitaire avec différentes associations de la MDE, vu que on est pas mal à la Maison des Étudiants et qu'on avait essayé de lancer un petit mouvement sur les à propos des usagers de la MDE. On en avait parlé dans une émission précédente. Et en fait, hier, on a fait une petite réunion avec différentes associations qui seraient motivées pour les conseils centraux, les élections de conseils centraux en mars. Et on a essayé de définir un programme en quelques parties avec différentes associations comme Sud Étudiants pour notre organisation syndicale, mais il y avait aussi des associations culturelles de la MDE comme Art & Bass, des associations qui sont plus par exemple la MUD qui gère la cafette de la MDE. On est nombreux et nombreuses dans ces associations à vouloir s'impliquer pour les conseils centraux et pour les usagers de la MDE qui soient profs, étudiants ou autres, ils peuvent venir nous voir à tout moment pour s'impliquer dans cette liste et dans ce mouvement. Et je vais peut-être laisser la parole à Lissard pour expliquer un peu de notre programme ou nos grandes lignes très rapidement, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire.
Ouais, donc en gros, l'idée de sa mobilisation tourne autour essentiellement des usagers de la MDE et des associations qui y sont. Donc il y a celui d'étudiants et pas que, et moi par exemple. Je suis là en tant que qu'avant tout en tant qu'usager. C'est une liste qui s'est montée autour de la mobilisation de il y a quelques mois des usagers de la MDE, notamment un droit de regard sur le budget et notamment notre droit à l'association qui est revendiqué. Trois points de programme globalement. Donc d'abord un enseignement supérieur libre d'accès, gratuit et accessible à tous. L'opposition à la fusion des universités, donc qui est un gros point de programme un petit peu technique, mais que on espère nos futurs élus porteront au sein des conseils. Et enfin, le droit à l'association et le droit à la souveraineté en fait dans l'université. L'université, c'est aussi, ce ne sont pas que des cours, mais c'est aussi un espace où on se retrouve et un espace où fait partie aussi de la formation l'association en général. Beaucoup d'entre nous se retrouvent à organiser de gros événements quand ils sont militants associatifs, des soirées, des conférences ou tout simplement des moments de partage qui font non seulement partie de la formation, mais aussi des permanences, les permanences de Sud. Et
aussi, c'était aussi pour dire que le campus devrait être accessible à tous et toutes, en termes de, pour les étudiants qui sont handicapés, des étudiants qui veulent organiser pas mal de choses à la MDE, où en fait, nous, notre liste tend à rassembler à peu près tous les gens qui sont motivés. Enfin, c'était un peu ça qu'on voulait dire, en fait. Du coup, je sais pas si t'as d'autres choses à dire, ou peut-être qu'on passe la parole au camarade du SNESUP.
Oui, tout à fait. Donc, dans la même ligne que vous, effectivement, on est bien content, évidemment, que les étudiants puissent monter des listes, on va dire, indépendantes, des listes indépendantes.
Des écuries, on va dire.
Pour ces conseils, parce que, alors, nous savons, en termes d'information, que, nous avons deux écuries qui sont mises en place, là, qui sont en ligne, en ordre de marche. Il y a un premier projet qui s'appelle Cap-Ulil, ULILLE, donc ça veut dire CAP, Université de Lille. Il y a un deuxième projet qui s'appelle Azur, voilà, et le projet sorti du chapeau, c'est nous, donc on l'a pas encore appelé, on n'a pas donné de nom, mais nous sommes aussi en ordre de
on
marche.
On ne se cache pas derrière un titre qui pourrait disparaître et changer tous les 4 ans,
nous sommes en ordre de marche.
La CGT-FSU, où il y a son projet et son candidat pour...
L'affaire sub-CGT plus la FSU entendent bien débattre dans cette...
Monter d'un niveau le débat qui devrait avoir lieu, et ce sera l'occasion aussi de porter des revendications et des propositions que j'entends là. C'est pas une découverte, mais qu'on partage avec Sud, et en particulier sur la fusion des universités, j'irais au titre des personnels et de l'Université de Lille. On a déjà exprimé dans les différentes instances nos grandes inquiétudes sur le Big is Beautiful et de comment ça pourrait terminer cette aventure.
En tout cas, ce qu'on demande au niveau des organisations syndicales, c'est qu'il y ait quand même une consultation des personnels et étudiants sur cette question-là, et que comme ça au sommet de la marche à suivre, alors que les gens ne sont pas partie prenante finalement d'un projet qui n'a pas accueilli l'adhésion en général. Et donc ça me paraît important de le souligner. Donc ça, c'est des questions qui méritent d'être débattues lors de la campagne électorale. Donc nous aurons l'occasion de vous présenter également notre programme qui est en voie de finalisation, n'est-ce pas, Claire? Je crois que tu as contribué.
Je crois que c'est le 23 février, non? On présente en AG.
Le 25 février, on a prévu un rendez-vous à l'espace culture qui devrait démarrer vers 12h et avancer un petit peu dans l'après-midi, qui va s'adresser au personnel de l'université et bien sûr aux usagers. Et ça va être l'occasion de présenter un peu notre programme, nos candidats, on va dire, que ce soit X ou Y, nos candidats. C'est surtout le programme qu'on veut mettre en avant, parce que il n'est pas derrière la liste CGT, SNESUP, FSU, c'est pas des personnes qu'on veut mettre et des plans de carrière, c'est surtout des vraies propositions et de vraies idées, non pas des possibilités d'une accélération de la carrière ou d'atterrir dans wouz-wouz de l'enseignement supérieur.
Exactement. Nous aurons certainement l'occasion de reparler de notre programme, justement, lors des prochaines émissions, une fois qu'il sera finalisé et adopté par les parties prenantes, en fait, les acteurs de ce programme. On termine peut-être par quelques points d'information, c'est ça, puisqu'on arrive pratiquement au terme de l'émission. Je vous regarde l'heure, il est 14h52, avec la pause musique, avec le générique que vous n'avez pas écouté.
De début, vous l'aurez à la fin. Comme quoi on tient nos promesses, on essaie de tenir nos promesses.
on va démarrer par une pétition là qui circule actuellement. C'est une pétition en solidarité avec les universitaires en Turquie. Alors vous savez que actuellement, donc il y a un appel qui circule là-bas en Turquie. Un appel qui s'appelle Universitaire pour la paix, et qui a été signé par un millier de chercheurs turcs et turcs, ainsi que des étrangers, bien également. En fait, le texte, globalement, il demande que soit mis fin aux opérations militaires contre les Kurdes, et puis que les couvre-feux soient levés, que cessent les violations répétées aux droits humains en Turquie. Et du coup, le pouvoir turc s'en prend directement donc à tous les universitaires intellectuels qui sont signataires de cette pétition. Donc il y a un appel de la FSU à travers le SNESUP SNCS à signer donc une pétition contre la répression de ces universitaires en Turquie. Voilà, ça c'est le premier point. Alors il y a aussi le deuxième point, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, c'est que, bon, évidemment, les nouveaux conseils nationaux des universités ont été mis en place, et l'occasion a été belle, évidemment, pour rediscuter de cette de ce serpent de mer qui est ce qu'on appelle la question de, je le mets ça entre guillemets, de l'évaluation des enseignants-chercheurs. Et donc, a priori, il y a plusieurs sections qui ont signé des motions qui refusent effectivement de participer à cette mascarade. Et donc, nous aurons l'occasion de faire le point peut-être là-dessus la semaine, de manière un peu plus précise. Et puis de peut-être de donner un peu les contenus de ces motions et de savoir comment c'est porté également. Voilà.
D'autres petites informations. Petit rendez-vous ce week-end, samedi, à la Bourse du Travail de Lille à Fives. Il y a une journée festive anti-guerre et anti-état d'urgence, si on peut dire appeler ça comme ça, qui commence à 14h et qui se termine à minuit. L'après-midi, ce sera l'occasion de rencontrer des militants associatifs, des militants syndicaux, des avocats, des chercheurs qui ont travaillé sur l'état d'urgence et sur... les mobilisations anti-guerre en France. Ça serait intéressant pour les gens d'y venir. Et le soir, on terminera avec un petit concert du rock et du rap. Enfin, venez nombreux. La Bourse du Travail est un lieu ouvert à tout le monde. Voilà. Enfin, si vous avez envie de venir, n'hésitez pas.
Très bien. Donc, je pense qu'on arrive nous arrivons pratiquement au terme de l'émission.
Une petite répétition, mais qui a son importance, c'est l'appel au Goodyear. Il faut.
Ouais, tout à fait.
N'hésitez pas à aller sur la toile et aller signer cet appel. Ça. C'est très, très important pour assurer la démocratie et l'avenir des travailleurs dans notre beau pays.
Ok, très bien. Donc on s'arrête là. On vous remercie d'avoir été à l'écoute.
Merci à vous. Merci Claire.
À jeudi prochain et merci à Claire pour sa gestion de la technique.
Au revoir.
Ciao, bella ciao, bella ciao, ciao.